livre sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs.
Tension, parasites et courants vagabonds. Pour donner la parole à des personnes en lutte contre l'uniformisation de ce monde, le bétonnage des terres et les diverses formes de domination qui s'exercent sur nous au quotidien.
Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous !
Bonjour à tous les auditeurs, auditrices du Saint-Africain. Pour ce mois-ci, Tension Parasite et Courant Vagabond vous emmène au fin fond de l'Irlande. Depuis plus de 10 ans, sur la côte ouest de l'île, dans le comté de Mayo, se déroule l'une des luttes et des résistances les plus virulentes que l'Irlande ait connues ces dernières années. Un envoyé spécial s'est rendu sur les lieux, il est avec nous en studio. Salut Morgane.
Salut Camille.
Alors, tu es allé te balader chez les Irlandais, tu t'es rendu dans le village de Rooseport et tu as rencontré les habitants qui s'opposent au projet de construction d'un gazoduc expérimental.
Oui, en effet. Je suis parti faire un petit tour en Irlande. J'ai passé 15 jours là-bas, parmi les habitants de Rooseport, et pour tenter de mieux comprendre les enjeux de cette lutte. Je suis revenu avec 3 interviews de personnes qui sont impliquées dans ce combat. Terence, qui est charpentier, Jerry, qui est éleveur de brebis, et Amon, un ouvrier agricole. Et un ami, Nico, s'est chargé de les traductions. Je tiens à le remercier d'ailleurs.
Tu nous as aussi ramené pas mal d'histoires et de docs à nous partager. Nous avons voulu consacrer une émission à ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices de Saint-Afrique, embarquons-nous pour la campagne irlandaise. Commence en octobre 1996, au large de la côte nord-ouest de Mayo, lorsque l'entreprise Wall découvre un gisement de gaz à 80 km au large de la côte. Au cours du mois d'avril de l'année 2000, les habitants du comté de Mayo apprennent à travers la presse locale la mise en place du projet d'exploitation du gaz de Corrib. En 2002, l'entreprise Wall est rachetée par la multinationale Shell.
Alors, en quoi consiste ce projet ? Lorsque les locaux se sont penchés sur la question, ils sont rapidement devenus inquiets. Ils ont découvert que c'était un projet expérimental, rien de tel n'avait été tenté dans le monde entier. Le gaz non traité serait porté à très haute pression, directement sur le fond de la mer, à travers un immense gazoduc de 5 km de long, appelé localement le pipe ou encore le pipeline. Et ce, jusqu'à la raffinerie située plus loin dans les terres, à Belanaboy. Le pipe en question traverse de part en part un espace naturel riche, une baie préservée, constituée de pâtures, de marécages et de tourbes. Dans cette même baie se situe la petite communauté de Rooseport, un petit village de pêcheurs et d'éleveurs de moutons.
Le projet de Shell est un désastre écologique, car il consiste à construire d'énormes infrastructures industrielles en plein milieu d'une zone naturelle classée, qui est aussi une zone marécageuse instable, ce qui fait courir un risque réel d'accident industriel. La construction du pipeline va notamment bouleverser la vie des habitants de Rooseport, dont les agriculteurs et les pêcheurs, qui se voient confisquer une partie de leurs terres par le gouvernement au bénéfice de Shell. Déjà, certains marins pêcheurs affirment que dans leur zone de pêche, les populations de poissons ont chuté de 70%. Depuis plus de 10 ans maintenant, les résidents des petites communautés du comté de Mayo font campagne contre le projet de Shell.
L'opposition au projet s'articule principalement autour de la population locale, qui ne se sent pas informée ni consultée. Les propriétaires fonciers, habitants sur ce qui est alors l'itinéraire prévu du gazoduc, reçoivent bientôt par courrier postal des avis leur indiquant que le tracé n'est pas négociable et qu'il serait sujet à des expropriations pour cause d'intérêt général. Certains ont donné leur accord pour céder leurs terres contre rémunération, alors que d'autres ont refusé. Les 5 premiers qui ont refusé ont dû subir une peine de 3 mois de prison ferme. Ils sont désormais connus dans tout le pays sous le nom des Rooseport Five.
Le collectif Shell Toussi s'est alors créé en réaction à cet emprisonnement. Shell Toussi se revendique comme un collectif non violent. Après l'échec des négociations et des recours en justice infructueux, le collectif a commencé à organiser des actes de désobéissance civile et à utiliser des techniques d'action directe non violente. C'est ainsi qu'ils ont mis en place des piquets de masse, des chaînes humaines, des blocages, des réunions d'information et plein d'autres actions.
Le mardi 26 septembre 2006, des manifestants bloquent l'entrée du site de la raffinerie à Belanaboy pour empêcher les ouvriers de travailler. Environ 150 personnes opposantes se tiennent devant l'entrée. Les ouvriers renoncent finalement à rentrer sur le site. Une semaine plus tard, le 3 octobre, un détachement de Garda, la police locale, arrive sur les lieux, augmentant le nombre de policiers de 170 hommes. Cette date correspond à un changement tactique des opérations de maintien de l'ordre à l'encontre des opposants. Une politique de zéro arrestation est appliquée, par contre, la violence policière se décomplexe. C'est ainsi que plusieurs manifestants sont hospitalisés après des affrontements avec les gardas. Les gardas sont accusés par des ONG et des personnalités politiques de violence excessive.
Une autre manifestation de grande échelle à Belanaboy, prévue pour le 24 novembre 2006, est annulée par les organisateurs, de peur de déplorer de nouveaux coups et blessures de la part des gardas. En 2005-2006, 150 vigiles de l'IERMS, l'Integrated Risk Management Services, une firme de sécurité privée, employée par Shell, arrivent sur place. Cette garde rapprochée a depuis été la cible de nombreuses critiques de la part des opposants, qui la perçoivent comme une milice paramilitaire responsable d'espionnage des riverains et de nombreux passages à tabac de militants en toute impunité. Once again, so I dream of a man whose hopes never end. To kiss with a girl who's as lovely as you. I'd give you my heart if you gave me the truth. And for every tear that is lost from an eye, I'd dig me a well where no man could destroy. I want to believe in the freedom that's bound, but all I remember is the freedom of all. Hey! Yeah.
The buildings, they shake, but my heart, it beats still. Oh, mother of Jesus, I feel pretty ill. I want to go home where my people feel safe. But there ain't no jobs in no free state, so I must remain.
Vous êtes toujours sur Radio Saint-Afrique avec Tension Parasite et Courant Vagabond sur la lutte de Roosport. Nous laissons maintenant la parole à Terence, un habitant fortement impliqué dans la lutte. Bonjour Terence.
Hello Terence.
Hello.
Salut Nico.
Salut.
Quel est le rôle que le gouvernement et la Garda ont pu jouer dans la lutte de Roosport?
It's a blatant state oppression.
Le boulot du gouvernement et des gardis, de la police, ça a été de faciliter ni plus ni moins le travail de Shell dans cette histoire. Ils sont même allés jusqu'à enfreindre la loi dans leur volonté d'assurer l'ordre. On peut même dire qu'ils ont été des partenaires de crime dans cette histoire. Et actuellement, le gouvernement collabore avec les grandes entreprises multinationales pétrolières pour que ces entreprises-là récupèrent 100% des ressources naturelles qu'il y a dans les eaux irlandaises pour leur propre bénéfice et sans que le peuple n'en bénéficie d'aucune façon.
Est-ce que dans ce cas précis, on peut parler de répression d'État, de répression policière?
Oh, yes. Yeah. It's a blatant state oppression.
Effectivement, complètement, on peut parler de répression d'État. Ils sont, comme on l'a dit avant, ils n'ont pas hésité à enfreindre une loi qu'ils sont censés appliquer scrupuleusement. Et on peut aller jusqu'à comparer ça à ce que Shell a fait au Nigeria, avant ça, où il y a eu plusieurs morts. Et c'est assez choquant de voir que dans un pays riche, la police soit aussi encline à collaborer et à faire tout ce que Shell a envie qu'il fasse.
Est-il vrai que Shell accorde aux locaux qui le soutiennent des avantages, on va dire, des avantages en nature?
Oui, effectivement, Shell ne se contente pas de donner de l'argent. Ils construisent des routes en tarmac devant les propriétés, construisent des murs. Ils ont même été jusqu'à donner des bourses, des tutes, à des enfants de famille qui ont accepté le projet du pipeline.
Quelles sont les attitudes, les dispositifs et les techniques qu'utilise la boîte privée IRMS pour protéger les chantiers de Shell dans la région?
They operated openly
Ils sont arrivés ici en 2007. Actuellement, ils sont confinés à l'intérieur des chantiers, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et on sait maintenant que les gens qui sont engagés dans l'IRMS sont ni plus ni moins des mercenaires. Il y a eu une époque où à Glengad, dans le chantier qu'il y a sur la plage, ils intimidaient les gens qui nageaient dans le coin ou qui changeaient leurs vêtements, ils allaient même jusqu'à les filmer. L'IRMS a aussi attaqué des gens qui habitent ici sur des routes publiques, devant la police.
Et alors, aujourd'hui, quelles sont les techniques qui vous semblent le plus utiles pour, ou les plus pertinentes pour freiner ou stopper le projet de Shell?
Oui, donc on va continuer les actions comme on l'a fait depuis le début, en bloquant des camions, ou en restant devant eux debout, soit en organisant des locons, donc ces structures de béton dans lesquelles les activistes s'attachent. Et il y a des poursuites légales qui sont envisagées aussi contre Shell.
Quels seraient les impacts pour la baie de Rouseport si jamais Shell arrivait à mener ses opérations à bien?
Ils sont déjà parvenus à diviser durablement la communauté sur ce projet. Et il y a évidemment des problèmes environnementaux qui sont craints, avec l'eau potable qui a déjà été polluée pendant les chantiers et les déchets qui sont déversés dans la baie ou dans les espaces naturels ici. C'est ça les effets de long terme qui sont redoutés par la population.
Aujourd'hui, quels sont vos espoirs pour cette lutte?
Je me suis engagé dans la campagne en 2005 et déjà à l'époque, les gens disaient que la bataille était déjà perdue. Aujourd'hui, on est en 2013. Chaque minute qu'on peut faire perdre à Shell est une petite victoire.
Si vous pourriez directement adresser un message à votre gouvernement, lequel serait-il?
Tout simplement d'arrêter de se comporter comme une dictature, parce qu'on est censé être dans une démocratie ici.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à l'antenne pour les auditeurs?
Shell peut acheter les politiciens, Shell peut acheter la police, mais elle ne peut pas acheter certaines personnes, et ces personnes-là continueront à se battre. Et le plus tôt le Shell partira, le moins ça lui coûtera, et le moins ça coûtera à ses actionnaires.
Ok, merci beaucoup Théron pour cette interview.
Ok, thank you.
Lorsque l'on creuse un peu les répercussions du pipeline sur l'environnement, on se rend rapidement compte que les impacts sont loin d'être négligeables, comme le prétend Shell. C'est une zone riche en termes d'habitat. De nombreux oiseaux, des mammifères et des plantes menacées y ont été recensés, ce qui explique que le site soit classé et protégé par l'Union européenne. Le pipeline va impacter de façon irréversible cet espace naturel.
Concernant la pollution de l'air, qui est l'une des principales préoccupations en ce qui concerne la raffinerie, les émissions atmosphériques qui vont se répandre dans ce qui était auparavant un environnement vierge comprendra oxyde de carbone, oxyde d'azote, dioxyde de soufre et autres composés organiques volatiles inconnus. Quant à la pollution de l'eau, de nombreux déchets dus au chantier de Shell et à sa raffinerie ont déjà contaminé toutes les eaux du territoire ainsi que les réserves d'eau potable. Ces déchets, non traités, contiennent de nombreuses substances létales. Déjà, certains marins pêcheurs constatent que dans leur zone de pêche, les populations de poissons ont fortement chuté.
Non content d'avoir un environnement déjà bien saccagé par cet énorme tuyau et les structures qui l'accompagnent, les habitants de Rouseport devraient se faire à l'idée qu'ils vont devoir vivre à côté d'un danger permanent. En effet, la spécificité du gazoduc de Rouseport est que le gaz non traité sera transporté à une pression exceptionnellement haute. La pression serait de 345 bars, comparativement à un maximum de 5 bars prévu par les normes en vigueur dans les gazoducs classiques. Tout ça directement du fond de la mer, à travers un pipeline qui passerait dans une zone de tourbière instable où des glissements de terrain sont fréquents. D'autre part, la nature du sol qui est acide pose question concernant la corrosion des canalisations sur le long terme.
De plus, comme dans tout gazoduc, le gaz contient toujours des impuretés chimiques susceptibles de détériorer les tuyaux et sont hautement explosifs. Il ne contient pas l'odeur qui alerte les habitants d'une fuite. Lors d'une audience concernant le tracé du gazoduc sous les eaux de la baie, un consultant de Shell admit que dans le cas d'une fuite, les maisons à l'intérieur d'un périmètre de 270 mètres du pipeline pourraient brûler spontanément dû au rayonnement de la chaleur. Dans sa déclaration d'impact environnemental de 2008, Shell a dénombré 49 habitations sur le tracé de son gazoduc. L'année suivante, après avoir révisé son rapport, il en comptait 82, dont 79 à moins de 500 mètres de la zone rouge du gazoduc. Nous vous laissons maintenant avec Jerry, un éleveur directement concerné par le projet, car il habite juste à côté du pipeline.
Hello Jerry.
Hello.
Salut Nico, toujours pour la traduction.
Salut, ouais ouais.
Alors, Jerry, est-ce que tu peux nous décrire et nous présenter le mouvement d'opposition, la campagne qui est née contre ce projet du pipe, et pourquoi les habitants se sont organisés autour de cette campagne?
La meilleure manière de décrire le mouvement, ce serait juste le rassemblement de locaux, de gens qui habitent ici. Et le but premier était de s'opposer au projet de pipeline. Et Shell n'a tout simplement pas l'autorisation de passer dans les terres sans l'autorisation des gens qui habitent ici.
Y a-t-il eu des expropriations de propriétaires terriens pour que Shell puisse mener à bien ses projets ?
Ça a donné lieu à carrément des emprisonnements avec les Rossport 5 qui sont allés en prison pour ça. Shell arrivait sur leur terre en disant qu'ils avaient la permission du gouvernement. Les habitants demandaient à avoir cette permission-là, mais ils ne la voyaient pas. C'est les policiers qui arrivaient, la Garda, et qui disaient « Nous, on a vu la permission, laissez Shell passer ». Les locaux ont continué à refuser puisqu'ils voyaient aucun document officiel, et c'est comme ça qu'ils sont allés au tribunal, et c'est comme ça qu'ils sont allés en prison.
Quels seraient les impacts pour la baie de Rossport si Shell menait à bien ses opérations ?
Comme conséquence, déjà, il faut savoir que ça va être un pipeline à la base qui devait passer à peu près 70 mètres des maisons des gens, que le gaz y circulerait à une pression de 345 bars. Les bars, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément très bien, mais à titre indicatif, un pneu de voiture contient de l'air avec une pression de 2,5 bars. Donc 345, c'est vraiment énorme. C'est en plus du gaz brut, donc il n'y a aucune odeur. Et des études ont été faites. Apparemment, en cas d'explosion ou de fuite, les habitants n'auraient pas plus de 30 secondes pour évacuer. On peut imaginer déjà le temps de trouver les clés de la maison ou quelque chose de ce genre. Les 30 secondes pourraient être assez rapidement dépassées. Et au niveau de l'écologie, la baie, c'est un espace naturel qui est officiellement protégé par l'Europe. Notamment, on ne peut même pas récupérer des algues ou bouger des pierres. Mais Shell peut faire absolument ce qu'il veut dans cet environnement, c'est une loi pour eux et une autre pour les gens qui habitent ici. Donc on peut avoir des inquiétudes écologiques pour l'espace.
Pouvez-vous nous raconter votre dernière entrevue avec le professeur salarié de Shell ?
Moi, je suis éleveur de moutons et j'ai plusieurs champs. Et un jour, j'étais en train de travailler dans un de mes champs et je voyais des gens qui étaient garés pas loin. Je savais que c'était des gens qui travaillaient pour Shell. Ils avaient des télescopes et j'ai commencé à leur poser des questions, ils ne me répondaient pas. Et je leur ai demandé s'ils regardaient les oiseaux. Ça les a fait rire et ils ont dit oui, on regarde les oiseaux. Et je leur ai dit, il n'en restera plus beaucoup une fois que vous aurez fini votre travail ici. Et l'un d'entre eux a répondu en riant, il devrait en rester un ou deux.
Quels sont tes espoirs aujourd'hui pour cette lutte ?
On a réussi à freiner les travaux de Shell pour une dizaine d'années maintenant. On va essayer de les freiner encore à l'avenir. Le mouvement concerne pas seulement la protection de notre environnement ou le fait d'offrir des ressources naturelles ou des choses de ce genre. Ça concerne une question beaucoup plus profonde. En France, quand on allume la télé et qu'on voit que les ministres irlandais doivent trouver d'autres fonds pour rembourser une dette ou des choses de ce genre, maintenant on sait qu'il y a l'équivalent de milliards d'euros dans les eaux irlandaises et que on pourrait peut-être payer des centaines de fois cette dette avec les ressources naturelles irlandaises. Mais pour l'instant, on nous demande d'accepter d'offrir toute cette richesse à des gens qui se fichent complètement de notre bien-être. Et en ce qui me concerne, tant que je pourrai marcher et respirer, je continuerai à m'opposer à ça parce que je trouve que c'est tout simplement injuste.
Merci, Jerry. Goodbye.
Goodbye.
Merci, Nico.
Vous êtes toujours avec nous sur les ondes de Radio Saint-Afrique. Suite à cette petite interlude musicale irlandaise, replongeons-nous dans l'émission de Tension Parasite et Courant Vagabond, consacrée ce mois-ci aux opposants du pipeline de Roosport. Le mouvement s'est formé d'abord localement à l'initiative des riverains qui refusaient de céder leurs terres, ou d'autres qui vivaient à proximité et s'inquiétaient des conséquences désastreuses du projet de Shell sur leur qualité de vie. Le mouvement a bientôt gagné une amplitude nationale et des militants irlandais et anglais ont rejoint les riverains pour dénoncer ce qu'ils jugent être des violations répétées des droits de l'homme et de l'environnement par des multinationales toutes puissantes qui bénéficient d'une politique gouvernementale complaisante. Alors Morgane, toi qui as partagé un peu de leur lutte, peux-tu nous expliquer quelles sont les inquiétudes des habitants de Roosport ?
Alors, les inquiétudes des habitants de Roosport, elles sont principalement dues au fait que ce gazoduc va transporter le gaz à une très très haute pression et que les distances de sécurité ne sont absolument pas respectées. Elles sont d'autant plus fondées qu'un récent rapport destiné au ministre irlandais des Ressources Naturelles affirme qu'en cas d'une rupture du pipe, avec une pression telle, il affirme qu'une personne située à moins de 315 mètres serait en danger de mort immédiat et qu'une habitation située à moins de 270 mètres serait en danger d'incendie direct.
Ok, alors concernant le gazoduc, on a compris un peu le problème. Et au sujet de cette raffinerie de Billenaboy, vers laquelle est acheminé le gaz, quels sont les impacts ?
Le problème de la raffinerie de Billenaboy, c'est qu'elle se trouve sur le bassin versant du Carrawarra Lake et qu'elle est la seule réserve d'eau potable locale. D'après le collectif Shell Tutsi, situer une raffinerie dans un bassin hydrographique est du jamais vu dans un pays occidental. Et puis, d'après le Conseil général du comté, les taux d'aluminium dans l'eau excèdent les normes de sécurité fixées par l'Organisation mondiale de la santé.
Et en fin de compte, c'est quoi vraiment l'objectif du collectif Shell Tutsi ?
Shell Tutsi, eux, ils militent pour un traitement du gaz en mer avant qu'il soit transporté dans les zones résidentielles. Car c'est d'après eux la pratique classique la plus utilisée dans le monde et la seule utilisée a priori. Mais Shell a rejeté cette proposition car pour eux, le cas de Roosport, ça serait trop cher à mettre en place.
Et quels sont les rapports entre le collectif Shell Tutsi et le gouvernement irlandais ?
Le collectif il critique principalement l'attitude du gouvernement qui, selon lui, offre les ressources aux multinationales du pétrole. Les compagnies pétrolières qui exploitent les gisements d'hydrocarbures situés sur le territoire ne doivent pas payer aucune royalties au gouvernement et bénéficient d'un taux d'imposition de 25%, alors qu'en moyenne, ce taux d'imposition il est de 68%. Et puis Shell peut vendre son gaz et son pétrole au même prix du marché, soit en Irlande, soit à l'étranger, sans aucun problème, comme il l'entend. D'ailleurs, Mac Cunningham, un ancien directeur de Statoil, a déclaré que dans aucun pays au monde, on ne donne des conditions aussi favorables aux compagnies pétrolières qu'en Irlande. Shell Tutsi souligne souvent la probabilité de corruption et de pots de vin pour l'obtention des conditions aussi favorables.
Nous allons maintenant rencontrer Eamon, un opposant de longue date qui est très attaché à son territoire, ce qui explique sa détermination contre Shell. Avant ça, nous allons écouter un petit morceau de musique trad.
Thank you.
Qu'est-ce qui a motivé les gens de la communauté de Roosport à s'organiser dans la campagne contre Shell pour lutter contre le projet du pipe?
Health and safety reasons.
Là, ça a commencé avec des inquiétudes concernant la santé et la sécurité, avec du gaz brut qui passe à une pression extrêmement élevée près des habitations. Ensuite, il y a le projet de Belanaboy avec la raffinerie qui était à 5 km à l'intérieur des terres et qui était en plus dans la zone potable et épuisée pour la communauté. Des enjeux comme ceux de la protection de l'environnement sont arrivés ensuite et puis l'inquiétude pour l'eau potable. De là, d'autres idées aussi ont recueilli comme l'inquiétude quant aux ressources naturelles en Irlande, la façon dont le gouvernement offre absolument toutes les ressources aux multinationales et la manière, le fait qu'il n'y ait juste aucun deal entre le pays et les entreprises.
Au vu des attitudes du gouvernement irlandais et de la Garda, quelles sont aujourd'hui tes attentes de Paris institutions?
Not very much at the moment, no. I think all the state
institutions. Plus vraiment d'attente, on n'a plus vraiment d'attente vis-à-vis de ces institutions. Elles sont globalement soumises aux forces du marché et au pouvoir financier de manière générale. Je pense qu'il faudrait qu'on récupère notre indépendance qui a fait de notre pays une démocratie qui fonctionne pour le bien-être peuple. Après moi, l'Irlande n'est plus une démocratie qui fonctionne, mais un État qui est soumis aux intérêts des grandes corporations et des grosses entreprises.
Dans la lutte, y a-t-il eu des violences physiques ou verbales de la part de la Garda vis-à-vis des locaux et des opposants?
Oui, yeah, definitely.
Oui, il y a eu beaucoup de violence, plusieurs phases. Par exemple, en 2006, ils ont commencé à arracher des piquets qui étaient là depuis 18 mois devant la raffinerie. Ensuite, il y a eu beaucoup de cas de policiers qui attaquaient directement les gens, qui les tiraient hors des routes. Et c'était particulièrement choquant de voir des gens parfois âgés, dans la force de l'âge, affronter un niveau de violence tel. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est la campagne médiatique qu'il y a eu avant que les gardes n'interviennent, où il a été dit dans les journaux que cette campagne était soutenue par l'IRA, par le Sinn Féin, le parti indépendantiste. Il y a eu une grosse campagne pour stigmatiser tout ça. Donc les gardes sont arrivés après cet arrière-plan médiatique et ils peuvent agir quasiment en toute impunité. Ils savent qu'ils ne seront pas vraiment jugés par leurs actes et que même si des plaintes sont formulées contre eux, ils n'ont pas vraiment d'inquiétude à avoir.
Quels sont les rapports avec les gardas, j'entends les gardas locaux, puisqu'en fait, la police locale, en fin de compte, ce sont des voisins, ce sont des gens de la communauté. Alors, quel rapport, par des rapports de force qui jouent avec les policiers locaux, quelle relation ça implique aujourd'hui dans la communauté avec ces mêmes gens qui sont aussi vos voisins, mais aussi vos ennemis?
C'est vrai que ça peut changer des choses. Certains des pires policiers auxquels on a affaire sont ceux qu'on connaît le mieux. D'ailleurs, la violence vient souvent d'un même groupe de policiers et c'est souvent pour ça qu'ils sont spécifiquement choisis pour intervenir dans certaines situations. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a affaire à une force de police, à un groupe qui suit les ordres, ou est-ce qu'on a affaire à des individus? C'est toujours assez difficile à appréhender. Moi, j'essaye d'être le plus civilisé avec les policiers parce que je ne vois pas l'intérêt d'aggraver le cas. Et je les vois comme des gens qui doivent suivre les ordres, mais c'est sûr que quand beaucoup de policiers arrivent dans le cadre d'une manifestation et qu'on ne connaît aucun d'entre eux, ça change quelque chose dans le ressenti.
Alors on va parler de répression juridique maintenant. Quels sont les chefs d'inculpation lorsque des opposants de Shell sont conduits devant la justice irlandaise?
Most of the
En général, les activistes qui sont amenés devant le tribunal ont accusé de bloquer des camions ou de ne pas avoir obéi aux consignes des policiers. Certains ont été accusés d'avoir endommagé la propriété de Shell. Quelques-uns, assez peu, ont été accusés d'agression, mais la plupart d'entre eux s'en sont sortis. C'était souvent des peines très dures qui étaient prononcées envers ces gens-là. Pour bloquer des camions, en général, l'amende maximum est de 400 euros. Et puis après, des gardes, des gens de l'IRMS arrivaient avec d'autres preuves et ils essayaient de faire grimper les peines. Et ce qui est intéressant à voir, donc là c'était très clairement des inculpations politiques, pour moi la justice ici remplit un rôle très politique. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à partir de l'an dernier, de cette année, la justice est devenue beaucoup plus coulante avec nous, surtout parce que les manifestations sont moins nombreuses et moins violentes. Donc toute cette histoire d'indépendance de la justice, c'est des conneries, tout simplement.
Connaissez-vous le nombre de personnes emprisonnées depuis le début du conflit et en moyenne, quelles sont la durée des peines?
Au début, en 2005, il y a eu 5 personnes emprisonnées pour 95 jours, c'était le Rosport 5. Ensuite, on a eu à peu près 3 personnes qui ont fait, disons, des vraies peines de prison, avec Maura Harrington, Niall Hartnett, qui est resté à peu près 7 mois en prison, et Pat O'Donnell, celui qu'on appelle le chef, pour 9 mois. Et puis ensuite, on a eu beaucoup de gens qui ont été retenus brièvement, un peu comme de la garde à vue en France. Donc je dirais, les Rosport 5, 3 personnes de plus, puis entre 10 et 20 personnes retenues des temps plus courts. Et l'exemple de Pat O'Donnell est particulièrement frappant. Il a été agressé, il a harcelé, on lui a cassé des côtes, juste parce qu'il refusait d'obéir aux consignes que lui donnaient les gardes. C'est un message très fort que celui-là. En principe, tu as le droit de manifester ton mécontentement et de réclamer tes droits, de les faire valoir. Mais si ta manifestation est un trop gros succès, là, les pouvoirs viendront pour te faire taire et te neutraliser. C'est ce message qui est très frappant. Si tu fais une manifestation pacifique ici en Irlande, tu risques la prison. Si tu portes un costume et que tu es derrière un bureau et que tu participes à la faillite financière du pays, à la fraude, vol de ressources naturelles ou ce genre de choses, il n'y a aucun problème.
Alors, certains perçoivent Rosport comme un ultime rempart contre Shell. Penses-tu que si les projets du pipe aboutissent ici, il n'en sera que plus facile pour que des projets similaires aboutissent dans d'autres régions du pays?
I do think this is a test case.
On peut voir ça effectivement comme un test pour voir jusqu'où peut aller une grosse entreprise en Irlande pour exploiter les ressources naturelles. Mais cette campagne a aussi montré que les gens peuvent s'opposer à ces projets, que les gens peuvent faire quelque chose. Ici, on est dans une des communautés les plus reculées et les plus petites du pays. Et ça fait maintenant 10 ans qu'on arrive à retarder Shell ou parfois à bloquer les initiatives. Il y a eu quand même quelques petites victoires, quelques batailles gagnées dans ce combat. Et on peut voir du coup notre campagne comme un message d'espoir envers ceux qui veulent, comme nous, lutter contre les pouvoirs financiers. C'est deux manières de voir la campagne. Je pense que même si on la perd, ça restera une bonne leçon.
Dans la lutte que vous menez, est-ce que vous pensez que le terme « guerre du vivant » vous semble approprié?
Ouais, je pense que c'est très clairement une guerre d'usure. La police, le pouvoir judiciaire visent particulièrement certains membres de cette campagne. On peut parler de harcèlement judiciaire, de choses de ce genre. La manière dont les médias nous ignorent ou rient de nous peut aussi être interprétée comme une tactique pour lasser les gens, pour les fatiguer, pour qu'ils finissent par lâcher le morceau. Mais les médias ont tendance à dire que ce chantier, il aura lieu de toute façon, et il continue comme prévu, et voilà. Il dit la même chose que 10 ans auparavant, et les gens ont bien vu ce qui s'est passé. Et je pense que les gens ont de plus en plus de mal à croire qu'on appelle les sources officielles, les médias. Et ça, c'est plutôt bon signe. Mais moi, je trouve la campagne et la réaction des gens très inspirantes dans leur résistance, dans leur persévérance, dans la manière dont ils lâchent rien. On peut se mettre à la place de Shell où, à un moment, ils se sont dit « Bon, on va construire la raffinerie et après, ça ira ». La campagne a continué, les gens ont continué à s'opposer. Alors, on a de moins en moins de gens qui viennent bloquer les routes, mais je pense que les gens qui s'opposent ici ont aussi appris à faire des pauses, quand il faut faire des pauses, à ne pas s'épuiser, et à toujours garder potentiel d'opposition. Et on garde un noyau de gens locaux qui disent « Non, vous n'aurez pas notre consentement, on est contre ce projet ». Et ce noyau est toujours là, et il continue à s'exprimer, et il continue à s'opposer, parfois de manière moins voyante. Mais il reste, et Shell continue un projet malgré l'opposition des gens. Et le résultat, c'est qu'ils sont obligés de tout faire avec beaucoup d'agents de sécurité, avec beaucoup de barrières, de clôtures. Ils ne peuvent pas travailler sans clôture. Et ça envoie un symbole très fort, je pense, au projet.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de Camp Solidarity de Rosport et des aides des activistes que tu citais tout à l'heure, notamment des aides à l'échelle internationale parfois?
The Rossport Solidarity Camp was set up by in 2005.
Le Rossport Solidarity Camp a été fondé en 2005 et ça a permis de faire beaucoup de travail. C'est vrai qu'on a eu des gens qui sont venus de tout le pays, de toute l'Irlande, d'Angleterre, du continent. On a eu des gens qui sont venus des Pays-Bas et d'ailleurs. Ça nous a permis de bien faire ce constat que ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui se passe au Nigeria, c'est la même chose, qu'on est en train de mener la même lutte qu'eux. Il s'agit toujours de lutter contre la cupidité des entreprises. Ça a été une bonne chose pour que les gens viennent et puissent voir et parler avec les locaux et se rendre compte de l'enjeu de la lutte qui se joue ici. Et ça pose toujours cette même question d'égalité des gens devant la loi, devant les entreprises, devant ce genre de choses. Je pense que ce camp a vraiment été une bonne chose et a permis à la campagne de se faire entendre encore plus et encore plus largement qu'elle ne l'était avant.
Et alors aujourd'hui, quels sont les moyens de lutte qui te semblent le plus pertinents pour lutter contre Shell, tout en pensant que certaines personnes affirment qu'aujourd'hui c'est un combat qui est perdu?
Well, things are quiet at the moment.
Ici, cet hiver, là, c'est très calme, peut-être un des moments les plus calmes depuis très longtemps, mais il y a encore beaucoup de ressentiments et beaucoup de potentiel pour la suite. Là, la prochaine étape sera pour Shell de construire un tunnel sous une baie. C'est un chantier qui va leur prendre 15 mois. Ça nous laisse beaucoup de temps pour arrêter et pour interrompre les travaux. Et je pense que les gens savent très bien que ce projet est mauvais pour l'Irlande, il est mauvais pour la communauté ici, il est mauvais pour tout le monde, sauf pour les actionnaires de Shell. Et je pense qu'il faut continuer à informer les gens et à les éduquer, même si la plupart d'entre eux le savent. Mais les élites leur ont fait savoir que c'était la manière dont les choses se passaient et que ça ne pouvait pas changer. Mais moi, je pense que cette idée-là commence à reculer un petit peu et que les gens sont de plus en plus au courant qu'on peut faire autre chose que ce qui se passe maintenant.
Ok, merci beaucoup pour cette interview et le temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu auras un dernier mot? Je te laisse une carte blanche pour passer un message si tu veux. For the last,
look at the website www.shell2c.com.
Allez faire un tour sur le site de la campagne www.shell2c.com. Vous y trouverez toutes les informations de notre campagne et puis on va continuer le mouvement. Il y aura sûrement des manifestations cet été, donc en juin par là, et on manque toujours de gens pour ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à venir nous voir cet été.
Merci beaucoup Aman, thank you very much.
Thank you.
Bye, salut Nico, merci. Après avoir reconnu l'absence du programme complet pour la surveillance et la sécurité du site, Shell a proposé un plan d'évacuation en 30 secondes, selon laquelle les habitants, toutes classes d'âge confondues, devraient parcourir 2,5 mètres par seconde pour éviter d'être brûlés vifs en cas de rupture. De toute évidence, les spécialistes de Shell n'ont jamais mis le pied dans les tourbières où il est difficile de circuler. Ils sont partis du principe que toute personne se trouverait forcément à moins de 30 secondes d'un abri en cas d'accident. Tous ceux qui connaissent un peu la région savent pourtant parfaitement qu'un homme occupé à faire paître son troupeau de moutons ou à couper de la tourbe aux alentours du gazoduc se trouvera bien loin de tout refuge.
La protestation et la révolte ont eu peu d'impact dans les médias nationaux jusqu'en 2005, année au cours de laquelle 5 habitants du village de Rooseport ont été emprisonnés pour avoir empêché Shell de pénétrer sur leur terre. Les années suivantes, des dizaines d'autres personnes ont été arrêtées et confrontées à la prison, tandis que la campagne de mobilisation prenait des dimensions nationales et internationales. Ce combat contre le projet du pipe a aujourd'hui plus de 10 ans. La lutte qui se mène a retardé le projet de plusieurs années, et dans cette affaire, Shell a perdu plusieurs centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, le projet est avancé à plus de 80%, et il ne reste plus que 3 ans avant la fin des travaux. Mais les personnes que Morgan a rencontrées là-bas, loin d'être abattues, continuent la lutte avec autant d'acharnement qu'à leur début.
Ce qui nous semble intéressant dans cette lutte, c'est cette capacité de réaction et cette inventivité que peut déployer une population pour défendre le territoire qu'elle habite. Le cas de Rooseport nous montre comment une petite communauté de villageois, déterminée, n'a pas peur de faire face à un géant de l'industrie pétrolière appuyé par un gouvernement et sa police. Sous prétexte d'intérêt général, cette industrie pille les ressources, met en péril la vie des habitants et leur activité. Ceux-ci sont conscients des richesses de leur territoire et attentifs aux activités qui s'y développent. Il faut entendre leur mécontentement sur la manière dont Shell s'octroie impunément leurs richesses. Et n'hésite pas, pour ceux, à barrer la route aux machines.
Voilà, auditeurs et auditrices de Radio Sainte-Afrique, cette émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un petit tour en Normandie, aux côtés de ceux du Chefren, qui font barrage à RTE et à ses ambitions mégalomanes de transport d'électricité.
Ciao, au mois prochain.
Au mois prochain.
Por yo do 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 do